Non, j'ai pas envie qu'ils partent. Mais pas du tout.
Moi, j'ai pas envie qu'ils partent parce que s'ils retournent en Angola, comme il y a la guerre, c'est possible qu'ils meurent. Et déjà que leur papa, c'est possible qu'il est perdu en Angola.
Joao est scolarisé à l'école Bonnour de Toulouse. Sa mère, sa petite sœur et lui ont fui l'Angola où ils étaient menacés. Là-bas, le père de Joao a disparu, sans doute tué à cause de ses engagements politiques. Ici, l'asile leur a été refusé. Alors Joao, sa petite sœur et sa maman, après avoir vécu près de 2 ans à Toulouse, risquent d'être expulsés vers le pays de leur souffrance. Joao et ses proches n'ont comme seul horizon le centre de rétention et une reconduite à la frontière. Les parents d'élèves ainsi que la directrice de l'école Bonnour, dans laquelle est scolarisé Joao, se sont mobilisés afin de permettre à cette famille de voir l'avenir sous un jour meilleur. Pour Sylvie Robert, parent d'élève, Joao et ses proches ont le droit de vivre en paix et en sécurité, ici en France, à Toulouse.
Donc il s'agit d'une famille angolaise, donc c'est la famille de Souza Noguera. Donc leur mère est arrivée ici en France avec ses 2 enfants en 2004. Ils fuyaient en fait l'Angola pour des raisons essentiellement politiques. Leur père a disparu dans la province de Cabinda de façon non expliquée aujourd'hui et malheureusement on craint pour sa vie. Et donc c'est pour fuir le danger et les menaces sur sa famille que cette dame a choisi de venir s'exiler en France.
Elle est partie avec ses 2 enfants.
Oui, elle est partie avec ses 2 enfants, ainsi que sa belle-sœur qui a aussi 2 enfants et qui vit aussi à Toulouse. Et qui, elle, par contre, est malade et a été greffée d'un rein.
Justement, quelle fut leur difficulté en arrivant en France pour faire reconnaître leur cas ?
Alors, la difficulté qu'ils ont eue, c'est qu'ils se sont d'abord adressés à l'OFPRA pour faire reconnaître qu'ils étaient réfugiés politiques. Et la difficulté réside essentiellement dans les preuves à apporter, car eux, ils se sont enfuis très vite. Ils n'ont, sous le coup de la menace, donc ils n'avaient pas de preuves réelles du fait qu'on attentait à leur vie. Le père a disparu dans la province. On n'a pas aujourd'hui de traces écrites de la part de l'État, puisqu'ils contestent effectivement cette disparition. Donc, aucune trace de la part de l'État angolais de sa mort, comme on suppose aujourd'hui. Et ensuite, la seule chose que cette dame a pu montrer, c'est une lettre qui a été traduite, qui a été envoyée par des personnes qui l'avaient aidée dans sa fuite pour expliquer un peu la situation là-bas, qui apparemment ne s'arrange pas et qui lui recommandait fortement de ne pas rentrer en Angola. Beaucoup de gens qui avaient participé à sa fuite ou qui les avaient aidés sont aujourd'hui menacés ou ont disparu mystérieusement ou sont même décédés.
Ils sont menacés là-bas, pourquoi ? Parce qu'ils ont un engagement politique particulier ?
Alors, ils ont fui, donc parce qu'en fait, la province de Cabinda, il faut savoir, c'est une enclave en dehors de l'Angola, près du Zaïre, et qui demande depuis longtemps son indépendance. Et donc le père a été envoyé en tant que policier dans cette province et a sympathisé avec les gens de cette province. Donc on suppose que c'est plutôt par rapport à cette sympathie vers le mouvement d'indépendance du Cabinda que l'on doit cette situation aujourd'hui.
Voilà. Comment vivent-ils aujourd'hui en France ? Est-ce qu'ils sont hébergés à l'hôtel ? Quelle est leur situation
Alors en termes d'hébergement, comme dans beaucoup de situations de ce type, la situation a été très difficile. Ils sont d'abord arrivés à Bordeaux en 2004, puis au bout de 3 mois, ils sont venus à Toulouse. Et là, ils n'ont cessé de changer d'endroit. Ils ont été un coup hébergés par des familles, un coup hébergés en centre d'accueil. Dernièrement, ils ont même, au début avril, passé une nuit carrément dans la rue. Et donc c'est suite à cette nuit-là dans la rue, parce qu'ils ont manqué d'école, que c'est là que nous, on a vraiment appris toute la détresse de cette famille et toute sa situation dont on ne savait rien. Donc on l'a appris en fait de façon purement accidentelle par le témoignage d'un enfant qui était un peu fatigué, qui a expliqué qu'il avait passé la nuit dans la rue. Et donc c'est là où les instituteurs de l'école et les parents d'élèves se sont mobilisés pour essayer de leur trouver un autre lieu d'accueil. Donc ils ont été quelque temps à l'hôtel et aujourd'hui ils sont hébergés, mais de façon tout à fait illégale, par une famille angolaise.
C'est-à-dire que c'est la détresse de l'enfant et c'est lui qui vous a alerté, ce n'est pas la famille qui a fait la démarche.
Oui, tout à fait. Et c'est ce qui nous a le plus ému, c'est la grande détresse de sa famille, mais aussi sa très grande pudeur par rapport à sa situation. La mère ne nous a jamais venu demander d'aide et quand on lui a proposé notre aide, elle a refusé au départ dans un premier temps. Elle avait une très grande pudeur par rapport à cette situation qui est dramatique. Et donc c'est là que l'on a commencé à l'aider. Presque malgré elle au départ, et puis bon, maintenant, on essaie de faire en sorte qu'elle arrive à une situation beaucoup plus stable. Et ce qui nous a le plus frappé c'est, chez cette femme, c'est sa volonté d'intégration dans la société française. C'est-à-dire, dès le début, elle a cherché à... D'abord, elle a appris le français, parce qu'en Angola, on parle portugais, donc elle a appris le français de façon très, très importante. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle arrive à une assez... Pas une maîtrise parfaite, mais une bonne maîtrise pour se débrouiller. Elle a cherché à trouver du travail, donc elle a suivi pour plusieurs formations via le CREP, via plusieurs organismes qui l'ont aidé à suivre des formations de français, mais aussi d'autres formations, car c'est quelqu'un qui avait au départ un bac plus 2 en Angola et qui était professeur. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une volonté de s'intégrer dans la société par le travail en particulier et d'intégrer aussi beaucoup ses enfants. Ses enfants, aujourd'hui, dès le début, elle a cherché à les scolariser, donc c'est pour ça qu'ils ont fait d'ailleurs plusieurs écoles. Et c'est pour ça que dernièrement, quand ils sont arrivés sur Bounour, c'était à Pâques, peu de temps après, ils ont été forcés de déménager sur le Mirail. Et la mère a refusé de les changer d'école encore une fois, parce qu'elle voulait à tout prix qu'ils puissent suivre une autre scolarité normale. Et donc aujourd'hui, elle vient du Mirail tous les jours. Elle a 3 heures de trajet par jour pour amener ses enfants le matin et venir les chercher le soir.
Est-ce qu'elle travaille ?
Non, elle ne peut pas travailler actuellement puisqu'elle n'a pas de carte de séjour, donc aucune possibilité de travailler.
Comment réagissent les enfants aujourd'hui ? Dans quelle situation morale ils se retrouvent ?
Les enfants réagissent plutôt bien vu la situation qu'ils ont vécue. D'abord, ils se sont très bien intégrés dans l'école, ils ont fait beaucoup de camarades, ils parlent parfaitement bien français maintenant. À les entendre, on n'entend pas qu'ils parlent, que leur langue d'origine c'est portugais, donc ça c'est assez remarquable. Et ils se sont très bien intégrés dans la classe avec les autres enfants. Que ce soit Joao ou Ruben vont passer dans la classe supérieure l'année prochaine, enfin devraient passer dans la classe supérieure l'année prochaine. Donc ça s'est bien passé pour eux et on voit que, bon, je dirais, moralement, ils ont bien accepté la situation et eux, ils vont de l'avant comme vont beaucoup les enfants dans ce cas. Et je pense que la mère a joué un grand rôle là-dedans parce qu'elle les a énormément poussés à poursuivre les études. Elle est très, très soucieuse du fait que les enfants apprennent bien à l'école parce qu'elle sait que c'est ça la réussite d'une intégration et une réussite professionnelle et la réussite de leur vie au final.
Et les autres enfants, par exemple les vôtres, est-ce qu'ils se sont sentis tout de suite concernés par la situation ? Et surtout, est-ce que vous leur en avez parlé rapidement ?
Moi personnellement, j'en ai parlé que dernièrement à mon fils, parce que je ne voulais pas non plus, vu la situation délicate des enfants et de leur mère, je ne voulais pas, les enfants, mon fils a que 8 ans, les enfants dans ces cas-là auraient plutôt tendance à aller vers l'autre enfant et lui poser des questions qui pourraient l'embarrasser. Donc j'en ai parlé dernièrement, mais par contre mon fils a été tout de suite ému de la situation, il m'a dit « mais maman, c'est pas possible qu'il s'en aille, il est avec nous, etc. » Donc les enfants aujourd'hui font corps avec le mouvement dans la mesure de ce que permet leur âge. Je pense que dans la classe de Ruben, ses camarades sont beaucoup plus actifs par rapport à ça.
D'accord. Et les parents, vous êtes surpris d'une telle solidarité, d'une telle union ?
Surpris, oui, oui. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que les gens sont touchés par ces cas-là. Et en fait, depuis qu'on vit la situation, on a cherché à se documenter autour de nous pour savoir ce qui se passe ailleurs. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, bon, on en entend parler, mais tant que ce n'est pas chez vous, en fait, vous y prêtez moins attention. Et on s'est rendu compte que beaucoup de gens ont suivi le même parcours que nous. C'est-à-dire, bon, ils n'avaient pas des âmes de militants ni quoi que ce soit, mais ils ont été touchés par la situation d'une famille et le fait que, bon, ben, cette famille-là, elle est intégrée et pourquoi elle ne peut pas rester ? Au nom de quoi devrait-on les chasser et les condamner certainement à une mort plus qu'évidente ?
Ça veut dire que vous ne comprenez pas tout. Les contre-arguments que l'on vous oppose aujourd'hui, c'est ça ?
On ne les comprend pas. Disons qu'on les trouve... Je dirais qu'on avance des arguments qui sont purement mécaniques et statistiques face à une situation qui, humainement, est réelle et une grande détresse qui est réelle. Donc c'est le côté inhumain que l'on condamne essentiellement dans cette affaire.
Tout à l'heure, vous allez vous réunir autour de la préfecture avec même plusieurs collectifs. Hein. Les enfants vont sans doute marcher jusqu'à la préfecture. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ce que l'on attend, c'est qu'ils régularisent la situation de Dominga et de ses trois enfants. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'elle a un troisième enfant, c'est une petite fille qui a à peine 15 mois, Anali. Donc ce que l'on attend, c'est qu'elle régularise la situation de cette famille pour que Dominga puisse enfin trouver du travail et après, derrière, s'insérer complètement en termes de vie sociale, avoir un logement et enfin offrir une vie décente à ses enfants.
Tu peux me dire pourquoi tu es là aujourd'hui en train de marcher ? N'aie pas peur. Viens, marche avec moi.
Je suis là parce qu'il y a un de mes copains de l'école. Peut-être qu'il va retourner dans son pays. En Angola.
Et tu ne trouves pas ça bien, toi ?
Non, tu ne trouves pas ça bien.
T'as pas envie qu'il parte ?
Non, j'ai pas envie qu'il parte. Mais pas du tout.
Est-ce que tu comprends les adultes quand ils font ça ?
Non, je comprends pas beaucoup.
Moi, je sais pourquoi ils font ça.
Parce qu'ils veulent
fermer les frontières de la ville de France.
Moi, j'ai pas envie qu'ils partent parce que s'ils retournent en Angola, comme il y a la guerre, c'est possible qu'ils meurent. Et déjà que leur papa, c'est possible qu'il est perdu en Angola.
Et alors là, vous manifestez jusqu'à la préfecture pour essayer de dire... aux gens qui décident que c'est pas bien ce qu'ils font.
Oui, oui, c'est ça.
Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils fassent aujourd'hui, les gens qui décident ?
Moi, j'ai envie qu'ils comprennent qu'on n'a pas envie, on n'a plus envie qu'en France, il y ait des exclusions. Parce que quand même, ces deux enfants qui sont dans notre école, et ben, c'est pas des Martiens. Et dans tout le Toulouse, en tout, il y a 300 élèves qui sont pareils comme eux.
D'accord. Je te remercie. C'est bien.
Cet enfant, il s'appelle Ruben et Joao, et son frère, il s'appelle Joao. Et bien, c'est pas parce qu'ils sont d'une autre couleur de peau, c'est parce qu'ils n'ont pas les papiers de la France.
Et voilà. Il ne faut pas les renvoyer, ils sont sympas.
Ah bon ? C'est juste parce qu'ils sont sympas.
Et en plus, c'est inhumain de faire ça.
C'est vrai, c'est pas des Martiens.
Alors, je suis Yann Saint-Sauveur, je suis directrice de l'école Bonnour à Toulouse.
On marche en direction de la préfecture. Qu'est-ce que vous attendez de cette marche et plus largement, plus globalement, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics aujourd'hui ?
Bien, de permettre à cette famille de pouvoir rester près de nous, de pouvoir garder les enfants à l'école. Moi, je me suis impliquée dans ce combat parce que j'ai la conviction que cette famille est tout à fait capable de s'intégrer. Elle l'a montré de par l'investissement auprès de l'école. Il faut savoir que c'est une famille qui n'est pas venue en demande de ça. Et c'est plus nous qui nous sommes mobilisés autour d'elle.
Oui. Est-ce que vous comprenez les contre-arguments que l'on vous oppose, notamment le ministre de l'Intérieur aujourd'hui ?
Bien sûr, je les entends. Mais moi, il se trouve que j'ai cet enfant en classe. Il faut savoir aussi que cette famille n'a plus aucune aide de quelque organisme que ce soit et a été amenée à passer une nuit dans la rue. Donc moi, quand j'ai su ça, il y a eu un soir où soit je les laissais partir en leur disant à demain, soit je me mobilisais et je les aidais pour trouver un lieu où passer la nuit.
Lorsque vous avez commencé dans cette profession, est-ce que vous êtes imaginé un jour où vous vous retrouveriez dans cette situation ?
Non, pas vraiment. Je vous avoue que je ne suis pas du tout militante et c'est vraiment ce cas-là qui m'a touchée.
Et alors votre statut ne vous pose aucun problème ?
Je ne me suis pas vraiment posé la question. C'est en tant que maîtresse d'un enfant que je l'ai fait, que je sois directrice ou pas, n'a rien changé. Bon, bien sûr, en tant que directrice, je suis un peu plus mise en lumière parmi les autres personnes qui se mobilisent. Mais,
Pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous, pas de cas par cas, des papiers pour tous
Le cortège arrive enfin sur la place de la préfecture de Lot-Garonne. Une délégation va être reçue par le chef de cabinet du préfet, mais les dossiers sont si nombreux que l'administration semble rencontrer quelques difficultés pour parvenir à satisfaire toutes les demandes de rendez-vous déposées par chaque collectif.
Donc ça, c'était après la réunion où un certain nombre d'écoles ont demandé à être reçues. Donc on a relayé ça au niveau de la FSU, adressé à monsieur le directeur de cabinet ce matin.
Tout à fait.
Ça a été faxé ce matin. Mais là, il y a une seconde demande, c'est ça?
Tout à fait. La demande, elle a été faite par mail, par téléphone.
Et par téléphone
de l'école Bounour, spécifique à l'école Bounour.
D'accord.
Bon, écoutez-moi. Celle-là, c'est bon. C'est reçu.
Oui, d'accord.
Ok, c'est reçu. La deuxième, je ne sais pas du tout. Combien il y a de personnes pour l'école Bounour?
Il y a 4 ou 5 personnes.
Une, deux, trois, quatre, cinq, six, plus 4 ou 5 personnes de l'école Bounour. 4 personnes. Ça ferait 10 personnes en tout. Est-ce que ça peut se faire grouper?
Il n'y a pas de souci.
Ça vous dérange pas?
Pendant que la délégation est reçue en préfecture, le gros du rassemblement attend sa sortie. L'occasion alors nous est donnée de discuter avec certaines personnes sans papier venues courageusement manifester.
Quelle est votre situation?
Mon situation, je suis dans une situation irrégulière. Je suis marié, 3 enfants, ma femme a 46 jours de 10 ans. Je suis locataire, j'ai payé tous mes charges, j'ai payé mon loyer, mon EDF. Et j'ai déposé un dossier à la préfecture. Il ne me pas régularisé parce qu'il m'a demandé il faut faire un regroupement familial. Et voilà.
Et vous avez déjà reçu des papiers comme quoi vous pourriez être expulsé?
Oui, j'en ai reçu un. Ça fait un an. Il faut quitter le territoire français dans les meilleurs délais. Il m'a donné 48 heures.
Pour l'instant, personne n'est venu vous inquiéter?
Non, il n'y a personne. Oui, je suis tranquille, c'est vrai, oui. Mais quand même, j'ai son papier, c'est pas une vie, oui, c'est vrai.
Vous n'avez pas la possibilité de travailler?
Non, j'ai pas la possibilité de travailler.
Votre femme ne travaille pas non plus?
Non, ils travaillent pas non plus, oui.
Vos enfants sont scolarisés? Est-ce qu'ils
sont
menacés?
Ils ne sont pas menacés, non. Ils ne sont pas menacés, mes enfants, oui. Il y en a beaucoup d'enfants qui sont menacés d'expulsion. Ils sont scolarisés, ils sont dans les hôtels et tout. Et elle a donné un délai de... Ça fait vendredi à 11h, il faut quitter l'hôtel. Je ne sais pas.
Vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'hôtel, vous avez un loyer.
Non, je suis
locataire, oui. D'accord. Vous avez quitté l'Algérie, pourquoi vous avez quitté l'Algérie?
Parce qu'il y en a, ça fait avant le 92, ça fait le terroriste qui, déjà en 94, je travaillais dans une école. Il m'a envoyé une lettre, il m'a menacé par téléphone, il faut, si tu t'arrêtes pas, tu mords. Ah ben c'est pour ça que j'ai demandé du visa court séjour. Je suis venu en France pour installer là.
Et à cette époque, vous avez demandé l'asile?
Oui, j'ai demandé l'asile territorial, oui. Et il n'accepte pas. C'était rejeté, oui.
Aujourd'hui, ça fait 6 ans que vous êtes là. Vous avez de bon espoir d'être régularisé?
Normalement, on attend ça avec le nouveau circulaire de Sarkozy. Normalement, on attend la régulation parce que j'en ai le grand, il est scolarisé. J'en ai ma fille inscrite au maternel. Et j'en ai mon petit, déjà, ils sont dans un centre petite enfance. Tous mes enfants, ils sont nés ici. Oui.
Votre vie est ici, quoi?
Oui, je suis ici. Normalement, je vis ici. Je ne peux pas abandonner la France.
Et vous êtes marié donc à une Algérienne aussi?
Oui, ma femme, elle est une Algérienne, elle est résidée en France. On n'a pas de nationalité française.
Les discussions sont terminées. La délégation sort de l'enceinte préfectorale. Une représentante du réseau Éducation sans frontières prend la parole.
Vas-y, tu peux prendre la parole. Vas-y.
On nous a répondu. Il y avait donc deux thèmes importants qui ont été abordés. Le thème de la régularisation et d'empêcher les expulsions des familles concernant les enfants, c'est-à-dire d'utiliser la circulaire Sarkozy pour permettre à tout le monde d'être régularisé. Nous, en tout cas, c'est la revendication qu'on a portée, c'est-à-dire de ne pas choisir parmi les familles, mais que toutes celles qui peuvent entrer dans dans ce cadre, qui est donc tous les enfants scolarisés, à la fin, ça finisse par aboutir. Ça, ça a été notre revendication. Là-dessus, la réponse, elle a été on est humain, ça sera examiné dans les, de la meilleure manière possible, mais bien entendu, il y aura forcément quand même des APRF et des gens qui, à la fin, n'entreront pas. Voilà la réponse de la préfecture, c'est-à-dire la réponse en tant que représentant du ministère et devant appliquer la loi, etc. Bon, donc nous, on a bien présenté notre revendication et toutes les écoles qui ont parlé ont bien dit comment elles ne pouvaient pas envisager que les familles soient reconduites à un moment donné et qu'on resterait vigilant là-dessus. Et ensuite, il y a eu un deuxième volet qu'on a énormément développé, c'était celui de la fin du logement le 30 juin, de la fin de l'hébergement, des crédits d'hébergement d'urgence dans les hôtels. Et là-dessus, on a comme réponse non. Il n'y a plus de crédit d'hébergement et à l'heure actuelle, la préfecture n'a rien de prévu de plus par rapport à l'hébergement. Voilà, elle prend note, elle transmettra, mais il n'y a rien de plus que la semaine dernière. On l'avait déjà demandé, on en est au point zéro. Il
n'y a que les crédits ont été épuisés pour 2006.
Les familles vont recevoir les lettres leur disant que leur hébergement se termine vendredi à midi. Là-dessus, donc il faut qu'on reste complètement mobilisé, demain il y a un rassemblement, etc. Il faut continuer de manière à obliger la préfecture à changer sa position là-dessus, à obtenir des crédits, à bouger sur l'hébergement.
Ce reportage s'achève. Merci beaucoup à tous ceux qui ont bien voulu répondre à mes questions.